Dans l'édition de La Presse Plus de ce matin, il y a eu, appelons ça une chronique, intitulée « Armes à feu à Montréal, de la panique morale à la répression ». C'est un texte du professeur Ted Rotland, de Jade Bourdage et Carl Beaulieu, qui sont respectivement professeur agrégé à l'Université Concordia, professeur à l'Université du Québec à Montréal et candidat à la maîtrise à l'Université de Montréal. Ce qu'ils disent d'entrée, c'est que, et je cite, « Nous assistons actuellement à la construction d'une panique morale autour d'une prétendue prolifération des armes à feu dans les quartiers du nord-est de Montréal. » Monsieur Rotland, bonjour.
Bonjour.
Alors écoutez, pour vous, c'est quoi là une panique morale?
Mais une panique morale, c'était un terme inventé par Stanley Cohen, un sociologue, mais qui a été repris et redéfini par Stuart Hall et d'autres chercheurs à l'Université de Birmingham dans les années 70. Dans une institution qui avait pour but d'analyser l'intersection entre le système de classe et un système de suprématie blanche, il était très utile pour examiner un phénomène en Angleterre dans les années 70 qui s'appelait le mugging, c'est-à-dire juste un petit le vol de sac à main, en fait. C'était une forme de crime qui existait, sans doute, mais qui était rendu dans le discours public, médiatique, politique, comme un grave problème en Angleterre, pendant que c'était vraiment rien, et qui impliquait, qui était une façon de parler des personnes racisées et surtout des Antilles dans l'Angleterre, dans une période vraiment complexe pour la société, parce que l'économie était en plein mode de restructuration. Alors pour moi, c'est juste une façon de... Une panique morale, ça arrive quand on prend un phénomène qui existe sans doute et quand on l'exagère énormément pour détourner l'attention de certains vrais problèmes sociaux et pour mettre l'emphase sur des pratiques ou des politiques qui vont être souvent très opprimantes envers une certaine population. Alors, pour moi, le lien entre le mugging dans les années 70 et les gangs de rue, les armes à feu, il y a un lien vraiment facile à faire.
Vous dites que cette panique est alimentée par le service de police de la ville de Montréal. Et les élus municipaux et les médias. Qui ne rate jamais une occasion de faire mention d'une prétendue explosion de la violence sur ce territoire. Alors, commençons par le service de police de la ville de Montréal. Comment alimente-t-il cette panique?
Alors, comme vous le savez, depuis l'automne 2019, après que il y a eu le rapport sur le profilage racial, c'est un scandale pour la SPVM. La SPVM a commencé à parler de plus en plus des actes criminels impliquant des armes à feu. Au commencement, ils ne disaient pas exactement c'était qui avait les armes ou dans quel secteur de la ville, mais de plus en plus, on parlait de jeunes, souvent des jeunes personnes noires, des jeunes personnes racisées, dans le nord-est de la ville. Et ça fait un an et demi maintenant qu'on parle constamment des armes à feu, des fusillades. L'SPVM nous dit constamment que cette forme de crime est en pleine expansion, jusqu'à récemment, nous donner des données. Alors, tout récemment, on a eu des données finalement qui nous ont montré qu'entre 2018 et 2019, on a vu une augmentation de 10% des crimes impliquant des armes à feu, ce qui n'est pas vraiment beaucoup finalement, parce que c'est beaucoup moins que dans en 2016 et 2017. C'est en bas du moyen pour les dernières 6 ans, ce qui est grave. On ne devrait pas avoir des fusillades dans notre ville, mais l'idée que les fusillades et les crimes impliquant des armes à feu ont augmenté radicalement nous fait croire que la seule chose qu'on peut faire, c'est des actions à court terme, répressives. Il faut plus de policiers sur le terrain, il faut des tactiques policières plus agressives. Et comme nous avons dit dans l'article, ça détourne l'attention des problèmes criants d'investissements sociaux, d'investissements dans les groupes communautaires, que les groupes dans les quartiers comme Montréal-Nord, Saint-Léonard, RDP, Saint-Michel ont revendiqué depuis 40 ans. On a toujours de l'argent pour la répression policière, et on n'a jamais de l'argent pour les groupes communautaires. Et une des raisons, c'est que on est constamment face à des paniques morales où un vrai problème d'armes à feu dans notre ville, vrai problème, est totalement exagéré avec l'idée qu'on doit agir le plus vite que possible avec la police. Et le moment pour investir dans la communauté, c'est toujours dans le futur, mais un futur qui ne va jamais arriver.
D'accord. Mais dites-moi, est-ce que les élus municipaux participent de cette panique parce qu'il n'y a pas d'action, ou tout simplement on interprète leur inaction comme étant un manque de volonté?
Mais c'est les deux. On a vu les élus un peu partout dans la ville criant pour plus de ressources policières pour mettre fin à des actes violents dans le nord-est de la ville. On dit souvent dans les marges de conférences de presse que oui, on veut des solutions communautaires aussi, mais on ne voit pas où est l'argent. Alors, la ville a un fonds d'argent pour les groupes communautaires dans 14 quartiers de Montréal pour soutenir des groupes communautaires qui travaillent auprès des jeunes marginalisés, etc. $1 million. C'est pas rien, mais c'est presque rien. Ça veut dire que pour un groupe communautaire comme Équipe RDP, qui fait un bon travail sur le terrain, ils ont reçu $10 000. C'est pas même assez pour embaucher un travailleur communautaire, travailleur de rue. Pendant qu'on a augmenté le budget de l'SPVM par $15 million pour 2021. Alors, toujours de l'argent pour la répression, jamais de l'argent pour la communauté. Présentement, Christine Black, la mairesse de Montréal-Nord, a déposé une motion devant le conseil municipal pour créer un investissement de $3 million dans les groupes communautaires. C'était supposé débattre hier soir, mais ça n'a pas eu lieu. Peut-être que ça va avoir lieu aujourd'hui. On va voir les résultats. Mais même si on investit $3 million, qui est nécessaire, c'est quand même moins que 20% de l'augmentation de l'investissement qu'on a vu dans l'SPVM. Alors, ça montre qu'on continue de mettre l'emphase sur la répression, de trouver les gens avec des armes à feu et les envoyer en prison, et ne pas investir dans des pratiques, des politiques, des programmes qui pourraient joindre des jeunes, soit qui avant qu'ils achètent des armes à feu, ou même s'ils ont des armes à feu, pour les soutenir, pour prendre une autre direction de leur vie. C'est bien possible de le faire, mais on ne le fait jamais.
D'accord. Mais dites-moi, et les médias, est-ce que j'ai l'impression que, selon vous trois et d'autres personnes également, que les médias ne font qu'amplifier une situation que les médias présentent comme tragique, alors qu'en réalité, il y a lieu de tempérer leur ardeur dans la diffusion de l'information, moins de sensationnalisme, par exemple.
Absolument, absolument. On va toujours faire plein d'articles sur un fusillade où la recherche pour l'article est faite par la SPVM. La SPVM a un service de communication qui produit des articles pour les médias. Alors, c'est très facile pour un journaliste d'écrire sur un coup de feu dans le quartier parce que la SPVM fait la recherche pour l'article. Puis, cependant, on veut écrire quelque chose sur le manque d'investissement dans des programmes communautaires. Premièrement, on doit faire la recherche nous-mêmes. Deuxièmement, c'est moins intéressant pour la plupart des lecteurs. Alors, ils ne le font pas. Mais avant tout, je dirais que ce que nous avons vu les dernières deux semaines, c'est que les médias, incluant Radio-Canada, TVA, La Presse, Journal de Montréal, ont donné des plateformes à des soi-disant experts sur les armes à feu qui ne sont pas des experts et qui lancent des propos totalement ignorants et racistes sur le problème. Nous avons été poussés à écrire l'article, mes collègues et moi, parce qu'on a vu sur Radio-Canada un criminologue de l'Université de Montréal, Marc Ouimet, qui a fait une carrière en promulguant des arguments avec pas de sens, souvent basés sur des préjugés. Il était sur les ondes de Radio-Canada il y a deux semaines en disant que le problème des armes à feu dans le nord-est de la ville, c'est l'effet du culture de hip-hop et que pour régler le problème, il faut installer le programme new-yorkais de stop and frisk dans ces quartiers, ce qui veut dire arrêter toute personne qui a l'air d'être criminel, ce qui veut dire quelqu'un noir avant tout, peut-être quelqu'un racisé mais non noir aussi, les fouiller et les arrêter s'il y a raison de les arrêter. C'est une politique qui a été abandonnée à New York. À cause, premièrement, que c'était vu comme inconstitutionnel par les cours. Et depuis que la politique est abandonnée, le crime a diminué à New York. Alors, premièrement, on a l'argument que il y a une montée des activités impliquant des armes à feu, ce qui n'est pas vrai. Où l'augmentation est très petite et c'est entre deux ans, c'est pas une augmentation dans un contexte historique même de cinq ans. Deuxièmement, que c'est causé par la culture des hip-hop, et peut-être vos auditeurs sont plus courts que moi, mais pour moi, j'ai l'idée que le hip-hop n'était pas inventé hier. N'était pas inventé en 2019, par exemple.
Tout à fait.
J'ai l'impression que ça existait depuis au moins 10 ans, peut-être même 40 ans. Alors, c'est un argument totalement faux, frauduleux, mais qui produit l'effet désiré. C'est que si le problème, c'est la culture hip-hop, ça doit être le problème des cultures des jeunes racisés. Même si on sait que le hip-hop est écouté par tous les groupes culturels au Québec et dans le monde, il y a autant de jeunes personnes blanches qui écoutent le hip-hop que des jeunes personnes noires. Alors, on a créé un argument qui est accepté seulement parce que c'est raciste. Et Radio-Canada lui a donné une plateforme pour dire ce genre de choses. C'est pas la première fois. Il a fait son carrière sur ce type d'argument. Il a fait l'argument pour des actions, des tactiques policières encore plus répressives et encore plus racistes dans un contexte où nous avons un mouvement historique à Montréal et à travers le monde pour transformer la police de façon antiraciste.
Et dites-moi, vous avez dit une phrase qui m'a marqué, qui me hante depuis que je l'ai entendue. C'est que vous nous disiez que la police a cette tendance de, quand elle crie au meurtre, c'est qu'elle met le contexte pour que le meurtre puisse arriver. Je paraphrase, évidemment. Alors, finalement, il n'y a aucun changement. C'est toujours, ben, si on veut prouver qu'il y a beaucoup d'armes, ben, on crée une escouade qui va arrêter plein de gens. Et la plupart du temps, comme vous dites dans vos statistiques, même s'ils ont déclaré 70% des Noirs faisaient partie des groupes arrêtés, moi, on se rend compte que un peu moins de 30% avaient des armes. Alors, comment changer cette mentalité au niveau de la police pour qu'on puisse revenir à une vie normale et qu'ils exercent leur fonction qui est celle de protéger tous les individus sans exception?
Mais c'est compliqué. Je pense que la police n'était pas créée pour protéger tous les citoyens. Nous habitons dans une société colonialiste, raciste, capitaliste. La police a toujours joué le rôle de maintenir le statu quo, de criminaliser des gens racisés, autochtones, pauvres, itinérants, etc. Alors, c'est comme demander à une école secondaire réhabiliter les bâtiments dans le quartier. Mais l'école n'était pas faite pour ça. On peut toujours demander les enseignants d'aller dans les quartiers et travailler sur des immeubles avec, apporter des peintures, des autres équipements, des outils utiles, mais c'était pas créé pour ça. Alors, pour moi, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire une réflexion et voir que nous demandons présentement la police de régler plein de problèmes pour lesquels la police n'est pas la meilleure solution. Alors, moi, je suis pour le définancement de la police et le réinvestissement dans les programmes communautaires. Mais pour les gens qui ne sont pas prêts à me suivre là-dessus, ou suivre le mouvement là-dessus, on peut penser à plein de situations où on appelle la police à régler le problème, mais pour lesquelles c'est évident qu'il y a des autres façons à intervenir. Les meilleurs exemples sont l'itinérance, où la police, 10% des appels que la police, à laquelle la police répond chaque jour, ont un lien avec l'itinérance. Mm-hmm. Mais les policiers ne sont pas les meilleures personnes à soutenir des personnes dans une situation d'itinérance. On a les incidents impliquant des surdoses de drogue. Là encore, c'est clairement pas la police qui est la meilleure pour intervenir dans ces cas-là. Et finalement, je dirais problème de violence. Parce que, oui, la police peut-être trouver quelques personnes avec des armes à feu, les envoyer en prison. Mais on ne touche rien à le contexte qui a créé les conditions où certaines personnes désirent acheter des armes à feu, premièrement, et deuxièmement, les utiliser. Parce que, premièrement, on peut faire, si on demande la question, pourquoi est-ce qu'un jeune aimerait acheter un arme à feu? Là, il y a plein de réponses, mais les réponses vont nous pousser à penser, est-ce qu'on peut créer des meilleures opportunités pour ces jeunes? Deuxièmement, si on demande la question, qu'est-ce qui pousse un jeune ou un jeune adulte à utiliser un arme à feu? Là, on parle de conflit. Et on sait que à Chicago, à Philadelphie, et même à Montréal et Toronto, on a eu des bonnes expériences avec des travailleurs de rue qui sont capables de bâtir des liens avec des jeunes et des jeunes adultes et essayer d'éviter que certains conflits deviennent violents. Ça, c'est un travail que des travailleurs de rue peuvent faire parce qu'ils ne travaillent pas avec la police. Alors, ils vont avoir la confiance de ces personnes. Ils vont avoir accès à plus d'informations. Mais leur but n'est pas de trouver des gens qui ont commis des crimes et les envoyer en prison. C'est une approche de réduction des méfaits. C'est une approche qui dit que le premier problème, c'est pas que certaines personnes ont des armes à feu. Le problème le plus important, c'est qu'il y a des conflits dans notre société et on veut que ces conflits ne deviennent pas violents. Encore un travail que je pense que plein de groupes communautaires
pourraient faire.
Font de façon très efficace. Et s'ils avaient plus de ressources, ils pourraient le faire encore mieux.
Merci. À bientôt.
Merci.